RMC Intégral Tour, Fred Adam.
L'intégral tour en direct de Gap, deuxième et dernière journée de repos ici dans les Hautes-Alpes. Quatre étapes de montagne à venir dès demain. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, puisque après l'arrivée très spectaculaire hier à Gap, on repart à l'assaut des sommets et cette fameuse étape d'Ignes-les-Bains Pralou que beaucoup d'observateurs attendent. Il y aura probablement du grabuge dans les quatre journées qui viennent. On est là pour en parler avec toute la Dream Team d'Intégral Tour, toute la Dream Team Vélo. Luc Leblanc, bonsoir Luc.
Bonsoir. Si, bonsoir.
Voilà, tout va bien Luc.
Tout va bien.
Une journée de repos qui fait du bien.
Très chaude, très orageuse.
Oui, mais t'as récupéré apparemment. Hein. Thierry Bourguignon avec nous.
Eh oui.
Une fois n'est pas coutume.
Ah ben ça sera qu'une fois.
On est mieux dans le camion qu'au bord de la piscine.
Oh, c'est pas au bord de la piscine quand
on
même.
Compare pas, on compare
hein,
pas.
Mais c'est, il fait meilleur quand même que chez moi que dans les Alpes.
Oui,
c'est
oui.
Orageux.
C'est pas tout confort
c'est
ici.
C'est comme l'esprit du tour cette année, orageux.
Orageux. Cyril Guimard est avec nous en mode journée de repos. Je vous mets pas les images, mais sachez qu'il y a peu de tissu sur la bête. Cyril, on se fait plaisir en repos, hein.
Bien, oui. D'ailleurs, comme c'est une étape de repos, eh bien, j'essaye de me fatiguer parce que si je suis effectivement dans une tenue
légère, pour le moins légère.
En fait, je suis en cuissard.
Oui.
Parce que je suis venu de l'hôtel ici, 30 km, avec un VTC. Et quand l'émission sera terminée, eh bien, je vais re-rentrer à l'hôtel avec un VTC.
Très bien, ben voilà.
Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il est électrique. Hein.
Voilà, ben bien sûr. Il a passé un certain âge.
Parce qu'arrivé à un certain âge, il ne faut que l'électrique.
On va régler le problème après. Hein.
On rappelle à tous nos auditeurs qu'ils peuvent venir se mêler à l'intégral tour au milieu de la Dream Team en composant le 32-16. On vous attend avec impatience. C'était repos aujourd'hui. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées avec notamment des conférences de presse. On en reparlera dans quelques instants et dans quelques minutes avec le directeur du tour, Christian Prudhomme. Que se passe-t-il lors d'une journée de repos, entraînement, famille, mais aussi parfois des signatures de contrat? On est en compagnie de Jean-René Bernodeau, le manager général de l'équipe Europcar. Merci Jean-René de nous rejoindre ce soir.
Merci de m'inviter.
Comment ça va? Dans quel état êtes-vous professionnellement, nerveusement? Les deux sont liés, évidemment. On rappelle que l'équipe Europcar n'a toujours pas de futur clairement dessiné. Vous n'avez pas de repreneur alors que votre sponsor cesse son partenariat avec votre équipe à la fin de la saison. Comment ça avance et comment est l'ambiance au sein de l'équipe Europcar?
Bon, d'abord, comment ça avance, c'est pas une ligne d'arrivée qu'on perçoit. Ce sont des négociations avec des décisions, c'est oui ou c'est non. Donc il n'y a pas d'élément pour dire on voit la ligne d'arrivée, on est sur le point d'y arriver. C'est plein de contacts, mais les troupes vont bien. Ce qui est important, c'est que les troupes vont bien. On a fait une belle journée de repos avec 9 coureurs. On a Thomas qui a toujours sa petite rhinite, qui a parfois des petites poussées de fièvre, mais les 8 autres sont très bien. J'étais très content de les voir partir rouler ensemble. C'est rare qu'à la deuxième journée de repos, les 8 ont envie d'être ensemble. Mmh. Ça veut dire qu'il y a de l'envie. Et notre leader Pierre Roland ne s'est jamais trop raté dans les Alpes. Donc on peut lui assurer une belle équipe avec Gauthier, Sicard, Kemener et Thomas. Je pense Thomas, cette journée de repos, lui sera bénéfique.
Pierre Roland, 15e du classement général, votre premier coureur au général. Thomas Vauclair a une rhinite, ça ne l'a pas empêché de se glisser dans une échappée hier en direction de Gap. Vous parlez de votre équipe au complet, votre équipe, votre effectif, vous lui aviez signalé que vous lui laissiez jusqu'à la fin du tour pour rester mobilisé. Après, les coureurs auront droit, ou vous le tolérerez au moins et vous l'entendrez, auront droit de partir ailleurs.
C'est un problème d'éducation. Aujourd'hui, notre équipe, elle fonctionne bien. J'ai jamais menti. J'ai des contacts. J'ai plein de rendez-vous. Je pars demain à Paris pour 2 jours. Donc voilà, ils me font confiance. Moi, je leur fais confiance. D'abord, je leur dis, d'abord, votre fonds de commerce, c'est votre rendement.
Bien sûr.
Mais n'oubliez pas ceux qui travaillent dans l'ombre. Grâce à eux, vous allez pouvoir avoir une grosse cote, une grosse valeur marchande. Alors, je fais mon travail. Ils font le leur et puis on laisse faire la nature. Vous savez, quand un coureur partira sans me prévenir, j'aurais peut-être le sentiment de m'être trompé sur lui. Donc voilà, ça vaut quoi de trahir aujourd'hui ce qu'on m'apporte est ouverte. Mes coureurs, on a un gros échange et ensemble, on leur dit toujours, tout pendant que les pistes sont pas... tout pendant que les pistes sont sérieuses, faites-moi confiance et entre nous, il y a une vraie confiance.
Cyril, c'est pas une légende, hein. Les journées de repos traditionnellement sur le Tour de France sont une super occasion pour les agents de coureurs, pour les managers d'équipe de démarcher les coureurs qui sont libres ou pour les débaucher. Parfois ça arrive, c'est assez rare dans le vélo.
Bon, ça fait partie des choses normales. Ouais. Si on est sur les transferts, ça veut dire qu'on quitte une équipe pour aller dans une autre. Il faut qu'il y ait un coureur qui soit disposé à partir et une équipe qui soit disposée à le recevoir en fonction aussi des objectifs de certaines équipes, de renforcement dont ils ont besoin. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Peut-être qu'à l'époque des équipes de France, des équipes nationales, ça n'existait pas. Mais à partir du moment où on a été dans des équipes de marque, ça s'est toujours déroulé comme ça. Et surtout la deuxième étape de repos, bien qu'il y a certains Tours de France, il n'y en avait qu'une. Mais la dernière semaine, oui, c'est propice à ce genre de démarche. Oui, mais elle n'est pas normale.
Messieurs, Luc, Thierry, vous qui êtes allez, on va dire presque deux frères retraités. Vous étiez coureur il y a moins longtemps que Cyril. Le discours qu'a tenu Jean-René Bernodeau avant le départ du Tour à ses coureurs, restons mobilisés, faites-moi confiance au moins jusqu'à la fin du Tour. On fera les comptes à la fin. Les coureurs sont capables de l'entendre et de rester réglo jusqu'au champ.
Ben. Oui, merci Thierry.
Oui, oui, puisque moi je l'ai fait du temps de Toshiba. Ouais. Toshiba, deuxième année pro, ils nous ont dit la même chose. Ils nous ont dit faites-nous confiance, on a des contacts, on va avancer. C'est sûr que tu avances un peu dans le brouillard, mais comme t'as confiance en ton équipe, en ton manager, je suis resté auprès de mon équipe et au dernier moment, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau, mais j'ai pu rebondir. Avec Cyril d'ailleurs qui m'a sauvé de la noyade.
Tu pleurais tellement que j'ai dit je vais le recueillir. Le grand Bourgui, je peux pas le laisser comme ça sur le bord du Ventoux quand
même. Non mais je me rappelle en plus je crois que j'étais allé te dire que je restais au bord du moins avec mon équipe Toshiba parce que ils nous avaient laissé croire que ils avaient un contact très sérieux et bon c'est vrai qu'arrive un moment on peut pas rester mobilisé
c'est le piège aussi
jusqu'au dernier moment il y a une date
butoir pour en parler mais moi je me suis trouvé dans cette situation puisque en 85 la régie Renault nous dit qu'elle ne poursuit pas mais après le tour
piège pour de bon, oui.
Et là, j'ai toute l'équipe. Et c'est vrai qu'il y a deux trois coureurs qui n'ont pas, qui ont dit non, nous on joue pas dans la pièce. On a des propositions, on s'en va. Le bloc central est resté avec Laurent Fignon et c'est là où on est parti avec que Jean-René connaît bien le système U c'est vrai que faut faire attention aussi parce que si vous ne trouvez pas les il y a un moment si vous ne trouvez pas vous avez pratiquement tout le monde sur le bord de la route et d'autres équipes n'ont peut-être plus de place pour récupérer les bons coureurs les coureurs qui ont véritablement de la valeur ça c'est il y a vraiment une ambiguïté hein ce
Jean-René Bernodeau, le manager de l'équipe Europe Car qui est avec nous ce soir. Est-ce que vous savez, à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, s'il y a des coureurs qui se sont engagés ailleurs, parce que c'est pas parce que vous allez peut-être trouver un repreneur que l'effectif va repartir intact en 2016. Ça n'arrive quasiment jamais. Est-ce que vous savez qu'il y a des coureurs, notamment sur ce Tour de France, qui vous quitteront en fin de saison?
Non, je sais pas. Je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai 80% de mon effectif qui habite à une demi-heure du siège social. Ils sont tous ici du Vendée U. Ils ont un capitaine qui s'appelle Vauclair, qui a été exemplaire il y a 5 ans. Ils ont été très heureux de vivre 2011-2012 avec cette aventure humaine. Et aujourd'hui, il y a une vraie confiance. Aujourd'hui, c'est pas l'équipe pro qui est en danger, c'est tout le système que j'ai créé, qui est une centaine de personnes.
Bien sûr.
Il y a 40 gamins à l'école, au sport études de la Roche-sur-Yon. Il y en a 16 au Vendée U qui fait sa meilleure saison. Avec 5 victoires en classe 2.
Dans les rangs amateurs.
5 victoires en classe 2. et on en a quelques-uns qui arrivent. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu tout ça, c'est pas une équipe pro qui est en danger, c'est un système pyramidal lourd qui a été créé en 91, 25 ans, en 24 ans, voilà, c'est tout ça. Donc derrière il y a de l'éducation. Alors après je connais les parents. Et si demain quelqu'un qui me dit j'ai pas signé ailleurs et que j'apprends qu'il a signé ailleurs, ça serait une déception parce Je me serais trompé sur la personne. Mais après ça va pas changer ma vie non plus. S'il y a un départ ou deux, vous savez hein, quand on a signé avec Europcar au dernier moment, c'était une grande nouvelle pour tout le monde. Mais c'était écrit partout et vous rappelez-vous, une équipe sauvée mais terriblement affaiblie.
Oui.
Et 91 et 2011 a été notre meilleure année. Donc aujourd'hui une équipe c'est pas des voitures, des maillots, des bagnoles. Une équipe, c'est une âme. Et en 2011-2012, ce sont nos deux meilleures années historiques. Alors qu'on partait avec le sauvetage effectué grâce à la société Europcar, qu'on remerciera jamais assez. On les remerciera jamais assez. On a fait nos meilleures années. Donc, c'est la preuve exacte qu'il faut. Ben, j'ai la chance d'avoir un type formidable qui est Vauclair. Et j'ai la chance d'avoir des gens bien élevés autour de moi. Et voilà, je vends tout ça. C'est tout ce que je suis en train de vendre. C'est pas le vélo qu'on a connu pendant 10 ans dans le Tour de France. C'est quelque chose de fort. Il y a une histoire humaine forte avec des vraies valeurs, avec des gens qui ont quelque chose à dire. Il y a Brian Cocard, mais on a Thomas Bouda. Lui, par contre, il est avec nous l'an prochain puisqu'il est né au pro. Il peut pas partir avant que je décide qu'il parte.
Champion du monde sur piste. Petite du sprint français.
Voilà, on a tout ça. C'est une équipe en devenir. Cocard sera plus fort l'an prochain. Pierre Roland est dans ses bonnes années. Cyril Gauthier est dans ses bonnes années. Romain Sicard, qui est un type bien, qui m'a quand même refusé mon offre parce que Euskatel allait repartir avec Alonso. Donc un quelqu'un qui est bien élevé.
Qui s'est resté fidèle.
Il est resté fidèle parce qu'il a dit je pense qu'avec Alonso ça va se faire, je suis un peu désolé, c'est un peu ma famille. C'est des valeurs que j'aime et aujourd'hui ce qu'a fait Sicard avec son équipe ça m'a bien plu et quand ça a été définitivement non, il est venu.
Bien. Quelle est l'attitude des coureurs avec vous? Est-ce qu'ils sont un peu pressants comme des enfants qui attendent le Père Noël, le cadeau? Est-ce que le Père Noël il va m'amener ça?
Je triche pas, je leur dis la vérité. Je monte pas à Paris demain voir la Tour Eiffel. Je triche pas, je sais que j'ai des bonnes pistes, je sais que j'aurais pu signer il y a 3 semaines, ça s'est fait à rien, c'est un comex, c'est un vote, c'est passé à une voix près, c'est la vie. Mais aujourd'hui, je suis sûr de ce que je vends, et je sais qu'il y a des intérêts, il y a de l'intérêt, et le Tour de France réveille aussi les envies. C'est vrai que pendant le Tour de France, ça peut réveiller une envie, pourquoi on le ferait pas? C'est difficile de trouver des sociétés qui ont de cette taille, qui mettent des millions d'euros et qui n'ont pas de notoriété, mais ça existe quand même. Mais il y a aussi, il y a une motivation en interne, il y a de l'activation en interne, il y a des RP qu'on sait faire. J'ai embauché quand même la responsable de la boulangère qui m'accompagne dans mes travaux de recherche, qui est vraiment au marketing très très développé. Donc on a quelque chose qui fonctionne bien.
La boulangère qui a été, on le rappelle, l'un de vos sponsors avant Bouygues Télécom notamment. Vous dites que le Tour de France est une bonne manière de vendre une équipe et de trouver un repreneur. Ce qui se passe sur les routes du Tour depuis le départ d'Utrecht, avec cette ambiance un peu pesante, cette tension, ces suspicions autour de Froome et Sky, ça rend toujours le vélo vendeur auprès de décideurs.
Alors, il y a les chiffres. Une étape du Tour, c'est 2 finales de Roland-Garros.
En termes...
92 pays font du direct.
D'accord.
Vous voyez, quand on attaque une entreprise internationale, il y a un réel intérêt. C'est vrai que c'est cher pour une entreprise uniquement nationale.
On rappelle le budget d'une équipe.
Moi, il manque 5,5 millions pour boucler mon budget à 9.
Sachant que votre budget pour l'ensemble de la saison est à 9.
J'ai des partenaires fidèles qui rabaissent d'autant le ticket d'entrée.
D'accord.
Donc aujourd'hui, il y a une bonne affaire à faire d'une équipe qui, quand ça va moins bien, qui n'a pas trop de réussite, est quand même là. Parce qu'on est quand même là, on caresse la victoire. Nos Tours de France depuis 10 ans sont fiables. Plutôt linéaire, avec des exploits en 2011-2012. Mais c'est 2 maillots à Paris. 2 maillots à Paris, 5 victoires d'étape depuis 5 ans. C'est un bon bilan, globalement, et beaucoup d'équipes aimeraient l'avoir. Alors voilà, c'est tout ça. Après, il y a beaucoup de choses à faire autour des partenaires. Mais c'est vrai que quand je suis dans un bureau, le jour où un coureur français se fait prendre avec de l'OPO, j'étais dans un bureau chez un décideur. Ouais. C'était catastrophique.
Lloyd Mondory,
ils m'ont dit, c'était un français, c'est catastrophique. Ça, c'est vraiment catastrophique. On peut pas continuer avec ça. Il faut savoir pourquoi. On sait toujours pas pourquoi. Et aujourd'hui, la suspicion sur Armstrong, elle est gratuite. Et peut-être sur Froome. Et peut-être
elle est gratuite, mais le lapsus est peut-être révélateur.
C'est pas un lapsus révélateur. D'accord. Je me suis trompé. C'est gratuitement fait parce que peut-être que dans 10 ans, le travail de Brett Ford, ça sera le travail de toutes les équipes pro. Et aujourd'hui, il faut regarder ce que fait de près Brett Ford. Je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. beaucoup.
D'accord.
C'est ultra professionnel. C'est les pics de forme sont maîtrisés par des experts. C'est pas des docteurs en sciences, etc. Ce sont des experts qui travaillent sans parler. Parce que ça sert à rien de donner le travail. Pourquoi l'exposer? Je sais pas si Cyril, qui est à côté de moi, disait tout ce qu'il faisait quand on était les meilleurs. Ouais, parce qu'on était vraiment un collectif. On divulguait pas nos manières de travailler. J'ai appris beaucoup avec Cyril. Moi, c'est une entreprise qui gagne. Et Bradford, aujourd'hui, il faut regarder de près ce qu'il fait. Et moi, je regarde.
On va en reparler, évidemment, de ce qu'a fait l'équipe Sky aujourd'hui en divulguant les chiffres de la performance extraordinaire de Christopher Froome sur la Pierre Saint-Martin lors de la première étape des Pyrénées. On en reparlera dans quelques minutes.
On peut en parler. Moi, je connais les noms des Français qui existent grâce à ça, qui sont dans un canapé. À étudier.
Oui.
Il y a des types qui n'ont aucune compétence, qui ont vraiment. Il y a des gens comme Vaillé, ils sont rien ces gens. Moi, je le connais très bien, Vaillé. Je l'ai vu prof nul. Et aujourd'hui, ce type-là, dans son canapé, va donner des avis sur les watts des coureurs du Tour de France. Ce type qui était sourd, muet, aveugle à l'époque quand il était entraîneur de Festina, qui est en train de nous donner des leçons. Mmh. Et aujourd'hui, on s'amuse avec ça. Mais quel respect. Moi, j'ai des gamins qui vont à l'école, qui ont des diplômes, qui sont des coureurs, et on n'est pas du tout dans ce monde-là.
Mmh. On poursuivra ce débat avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, dans quelques instants. On vous parlait des occupations des coureurs et des équipes en cette journée de repos traditionnelle. Une grasse mat, 1h30, 2h de vélo environ, et puis des conférences de presse, et parfois les conférences de presse nous sortent des bonnes informations. On a appris par exemple il y a quelques minutes que Jean-Christophe Perrault, le deuxième du Tour de France l'an passé, qui évolue comme une momie bandée de partout après sa chute il y a quelques jours en direction de Rodez, disputait probablement, très très vraisemblablement, son dernier Tour de France. On l'écoute, c'était il y a quelques minutes au micro de Yann Pécheral.
Je pense, oui. Ensuite, il faut en discuter avec Vincent, mais clairement, dans ma tête, c'est mon dernier Tour. Voilà, j'ai plus envie de découvrir un Giro l'an prochain, et je suis vraiment en fin de carrière, donc j'ai pas la volonté et l'envie de revenir sur le Tour, même si ça se termine un petit peu en queue de poisson avec le Tour de France, mais j'ai vécu un beau Tour 2015, et j'éprouvais pas l'envie à un beau Tour 2014, pardon, 2015 c'est plus laborieux. Non, j'éprouvais plus l'envie de venir participer au Tour.
La voix est lasse, la voix de Jean-Christophe Perrault qui ne jette pas encore l'éponge, hein, qui repart demain a priori, mais ce sera a priori pour ses toutes dernières étapes sur le Tour. Une réaction, messieurs?
Je pense que il réfléchira sans doute après le Tour de France, mais là il est dans une situation un petit peu de déprime.
Ça s'entend, hein.
Par rapport au Tour de l'an dernier et celui-là qui n'y ressemble absolument pas. Laissons un petit peu de temps au temps.
Luc, c'est une décision difficile à prendre de dire.
Décision difficile à prendre. Tu sais, quand tu fais le Tour de France depuis plusieurs années, que t'es dans une super équipe, tu as l'ambiance, tu as la motivation pour faire quelque chose sur le Tour, et de prendre la décision d'arrêter le Tour, ça veut dire que l'année prochaine il fera encore une saison, mais il sait très bien qu'il ne fera pas le Tour et qu'il ne sera pas dans la sélection. Donc c'est vrai que c'est dur certainement pour Perrault, surtout que c'est son dernier Tour et qu'il aurait préféré le faire autrement.
Eh oui, on s'avance tout doucement vers la retraite en ce qui concerne Jean-Christophe Perrault, âgé de 38 ans et qui traîne sa misère. On va remercier Jean-René Bernaudot, le manager de l'équipe Europcar. Merci et surtout bonne route vers Paris demain.
Merci.
Et
on croise les doigts.
Bon rendez-vous, que ça vous apporte beaucoup et que l'équipe continue, parce que c'est beaucoup plus qu'une grosse vingtaine de coureurs qui est derrière tout ça.
Merci. On croise les doigts pour toi.
Dans quelques instants, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, est avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre au 32-16. Christian Prudhomme qui répondra à de nombreuses questions. Évidemment, il y en a des sujets à évoquer avec le patron du Tour. On se retrouve dans un instant. C'est l'intégral Tour sur RMC en direct de Gap pour la deuxième journée de repos du Tour.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Fred Adam.
C'est l'intégral Tour depuis Gap, où les 169 rescapés du Tour de France et la caravane qui les suit et les accompagne font une halte aujourd'hui avant de repartir à l'assaut des montagnes demain et dans les jours qui viennent. 4 étapes alpestres seulement 2 jours après l'arrivée spectaculaire à Gap. On a rarement eu un profil de fin de tour aussi accidenté. Il y a encore des choses trappes et des occasions de briller, des choses trappes pour Christopher Froome peut-être, allez savoir. Sachez qu'aujourd'hui les conférences de presse ont été très suivies et plus particulièrement évidemment celle de la formation Sky, la formation du maillot jaune, Christopher Froome. Beaucoup de monde ce matin à l'Ibis de Sisteron, il faisait alors grand beau, grand ciel bleu, beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que l'état-major de l'équipe Sky avait annoncé qu'il divulguerait les données chiffrées de la performance qui avait soufflé tous les suiveurs. L'arrivée victorieuse de Christopher Froome à la Pierre Saint-Martin, c'était explication de texte aujourd'hui sur le tour, ou plutôt explication de chiffres. Écoutez le manager de l'équipe Sky, Dave Brailsford, qui a tenu à répondre aux accusations, aux nombreuses accusations dont son équipe est victime depuis le départ du Tour de France. Dave Brailsford.
Of course, it did take me a bit by surprise. I think that's
Oui, j'ai été surpris par ce qui a été dit, ce qui a été rapporté. Rien n'était vrai. C'était désagréable d'avoir des questions comme pourquoi vous n'avez pas été contrôlé à Tenerife alors qu'on a été testé 25 fois cette année. Beaucoup de choses ont été dites et incorrectes. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cyclisme professionnel, les gens doivent être responsables. Si on doit présenter quelque chose à la télévision devant tout le pays, je pense qu'on a une obligation de dire des choses vraies. Et oui, c'était très décevant de voir ça. Dave Brailsford qui effectivement a dû sortir les pare-feux, et ce depuis quelques jours. Ambiance particulière sur cette troisième semaine du Tour de France. On est en compagnie dans le studio RMC pour cette intégrale Tour, on vous le rappelle, de la Dream Team avec Luc Leblanc, Cyril Guimard et Thierry Bourguignon, et on accueille le deuxième invité de cette intégrale Tour. C'est le patron du Tour, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. On parlait à l'instant de la conférence de presse de l'équipe Sky ce matin à Sisteron. Conférence de presse évidemment très suivie. Est-ce que ce qui a été divulgué, dit, expliqué aux journalistes vous est revenu aux oreilles? Est-ce que vous y avez porté attention?
Parce que tu penses, on se tutoie dans la vie, donc on va continuer à se tutoyer, faut pas faire semblant avec les auditeurs on se tutoie depuis 10 ans. Parce que tu penses que je fais pas attention à ce qu'il y a dans la presse?
Alors dis-le-moi.
Frédéric Adam. Évidemment, je lis, je regarde, naturellement, ça me paraît le minimum. Et comme ancien journaliste, j'ai même écouté ce matin, mais parce que j'étais en voiture, Thierry dans les grosses têtes, qui était d'ailleurs le seul à être pertinent.
Le seul dans ce camion?
Non, c'était pas vous ce matin, c'était
d'autres. Les GG.
D'accord, oui, pardon.
Les grosses têtes.
Les grandes gueules.
C'est parce que j'étais sur une autre radio à l'instant, voilà. J'ai pas fait le lien. Vous avez les deux studios mobiles côte à côte.
Christian, je vais reprendre le vouvoiement parce que
je vous en prie. C'est mieux pour les auditeurs. En tout cas, c'est ce qu'on dit.
Vous avez suivi donc ce qui a été dit. On a l'impression qu'on est rentré dans une nouvelle ère, en tout cas en termes de communication. On ne répond plus seulement aux questions sur la course, sur les performances, sur le suspense qui reste avant les Alpes. On entre dans la communication chiffrée. C'est intéressant, ça. C'est encourageant même.
Oui, il va falloir que je prenne quelques cours de recyclage pour comprendre ce qui est dit par les uns et par les autres, par les experts qui disent ceci, par les experts qui disent cela.
Nous aussi,
je vais pas rentrer là-dedans. Ouais. Effectivement, c'est une première, à mon sens.
Moi aussi, j'avais jamais connu ça. Messieurs, Luc, Cyril, Thierry, ressortir des chiffres, les expliquer et les interpréter par soi-même, est-ce que c'est la meilleure façon de répondre aux accusations qu'ont connues les Sky et Christopher Froome, le maillot jaune?
Moi, je pense que dans le climat actuel que nous avons sur le Tour de France, jouer la transparence me paraît la solution la plus adéquate. Continuer à ne rien vouloir donner, je dis bien par rapport au climat, mais il y a quelques années on avait cela directement sur internet. Moi je me souviens avoir récupéré des relevés de coureurs sur les étapes du Tour de France, où on avait les fréquences de pédalage, les puissances, on avait tout, et c'est seulement depuis très peu de temps que plus personne ne les donne. Donc de toute façon, la suspicion, on pourra la faire disparaître, ou en partie, pas la totalité, qu'à partir du moment où on collaborera et qu'on sera transparent sur les choses qui peuvent poser question.
Christian.
Non, juste un mot sur ce que dit Cyril sur le climat. Le climat, au bord des routes du Tour de France, il y a des gens avec le sourire, 99,99% de gens qui ont le sourire, les familles, etc., qui encouragent, qui mettent des drapeaux français, qui disent vive le Tour, etc., ou éventuellement non loup. C'est ce qu'on lit. On lit pas autre chose. Donc attention à ça. Là, on m'a dit merci depuis 48 heures, comme vive le Tour, c'est sympa, vous êtes là comme jamais. Attention à la distanciation, distorsion totale entre ce qui peut être fait dans les médias et donc ce que les gens comprennent. Puis il y a forcément une corrélation entre ce qu'on dit à la radio, ce qu'on dit à la télé, ce qu'on dit dans journaux, là, le bruit médiatique total qui est de tension, mais ça correspond pas une seule seconde. Moi, je rêverais que les gens viennent voir sur place. Il faut interroger les gens qui sont dehors. C'est pas du tout.
Mais nous l'avons dit ici. Hein.
Christian, vous avez connu les années Armstrong, nous aussi, et là, il y avait vraiment de la haine parfois chez les spectateurs pour Lance Armstrong. Vous êtes toute la journée dans la voiture numéro 1, la voiture rouge de direction de course. Il y a quelques pancartes contre Christopher Froome.
Il y a quasiment rien.
Voilà, on est loin de l'époque Armstrong.
Mais faut dire la vérité. Il n'y a rien. Il y a des pancartes non au loup, oui autour. Non au loup, oui autour. Ça, on voit ça. Vive le Tour de France. Merci au Tour de France. C'est ça qu'on voit sur le bord de la route du Tour de France. C'est pas autre chose. Je vais simplement dire autre chose sur Armstrong. Les gens sont persuadés, beaucoup de gens sont persuadés qu'il était sur le Tour. Mais il n'était pas sur le Tour. Il était à 200 km du Tour. Il était à 200 km du Tour de France. Il y a eu une question en anglais où quelqu'un lui disait, mais vous n'êtes pas invité dans le carré VIP. Et Armstrong a répondu, bah non, mais des carrés VIP, je les connais par cœur, je m'en moque. Mais il est où le carré VIP à 200 km du Tour? Vous pouvez m'expliquer? Quand il y a écrit sur les réseaux sociaux, on t'a pris d'homme qui invite Armstrong sur le Tour. Il est invité sur le Tour, Armstrong? Le bruit, il faut bien comprendre ça. L'ancien journaliste que je suis, le journaliste, c'est le métier de ma vie. À un moment, le journaliste, il est témoin. Témoin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bord des routes du Tour de France, il n'y a pas de pancarte anti-Froome. Et hier, j'étais au podium et j'ai fermé les yeux. Et j'ai écouté. Il
n'y
avait pas de sifflet. En revanche, il y avait beaucoup plus d'applaudissements pour Sagan et beaucoup plus d'applaudissements pour Quintana. Bien sûr que oui. Mais il n'y avait pas de sifflet. Et il y a une distorsion totale, totale entre ce qui se passe au bord des routes et ce qu'on entend partout. Et forcément qu'à un moment, le bruit médiatique pollue. Et sur des esprits faibles, il peut y avoir derrière des comportements et des dérapages sur le 0,01% qui est au bord de la route. Ce que tu disais très bien, Thierry, ce matin.
Voilà.
Dans les grandes gueules.
Ouais, Christian. Et dans les grandes gueules,
c'est vrai. Il fallait que je me remette. Voilà, je sortais du décalage horaire d'une autre radio. Voilà, il fallait que j'arrive. Je tombe sur terre. Je parle pas de celle avec laquelle on a travaillé avec Cyril, mais.
Et dans les grandes gueules, on mentionnait bien ce matin que effectivement il y a cette distorsion-là et que c'est souvent ceux qui en savent le moins qui parlent le plus.
Je l'ai déjà entendu dans ta voix.
Voilà.
Donc, absolument.
Quand même.
Je t'en sais gré.
D'autres voix dans l'intégral tour ici pour cette deuxième journée de repos à Gap sur un Tour de France qui va repartir à l'assaut des montagnes demain. Un auditeur au 32-16 dans l'intégral tour, c'est Thierry qui nous rejoint. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Donc, je suis content de vous avoir.
Ouais.
Parce que pour une fois, on va pouvoir parler vélo avec des amateurs, mais on va parler du Tour avant. Parce que moi, je suis président d'un club de cyclisme en région parisienne. Mmh. Et quand je vois ce qui se passe pour l'image de notre sport, c'est écœurant. C'est écœurant. Quand on se permet de lancer de l'urine sur un sportif, quel que soit le sportif que ce soit, quand on se permet de les insulter, malheureusement, ce qui se passe, c'est pas normal. On fait pas le procès de quelques cyclistes que ce soit. On a un amour du sport qui est en train d'être bafoué. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que le Tour de France prend en pleine face ce qui se passe actuellement dans le cyclisme amateur.
C'est-à-dire, Thierry.
Alors, c'est très simplement. Très brièvement. Ben, quand on va à l'entraînement ou avec nos gars, avec notre école de vélo, eh ben, sur un automobiliste sur 10, il y en a un qui jette le cendrier, le contenu cendrier sur les enfants. Un autre qui vous sert en voiture. Quand on organise des courses de cyclisme amateur, eh ben, les bénévoles se font insulter. Et ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que ces gens-là qui balancent de l'urine sur les sportifs, moi je suis sûr que ce sont les mêmes qui nous servent en voiture.
Bon, merci bien beaucoup. Sûr. Merci beaucoup,
Thierry. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Christian, on aborde ce sujet-là. Cet épiphénomène, pour vous, ce dont a été victime Christopher Froome il y a quelques jours, ce jet d'urine à sa face, c'est pas le premier, c'est vrai, à qui ça arrive. Vrai,
c'est pas le premier à qui ça arrive, c'est rarissime. Des coureurs d'un immense talent, et même français, comme Jacques Anquetil, n'ont pas toujours été appréciés sur les routes du Tour de France. Eddy Merckx, le plus grand champion de l'histoire, n'a pas été non plus. Mark Cavendish, il y a 2 ans, avait reçu aussi des jets d'urine. Donc c'est évidemment condamnable. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai voulu le dire clairement. Oui, les coureurs du Tour de France, tous les coureurs du Tour, et le maillot jaune, bien sûr, sont des gens respectables. Sur les bords de la route, sur les bords des routes du Tour de France, 99,9% des gens encouragent les coureurs du Tour. Ils préfèrent un coureur, mais ils n'ont rien contre l'autre. Alors, si certains n'aiment pas les coureurs qui sont devant, c'est très simple. Ils vont pas au bord de la route. Et puis, ce sera vite réglé. Il en restera suffisamment du monde au bord des routes.
C'est la règle, en règle générale. Mais quand vous avez un imbécile sur 500 000 téléspectateurs, c'est ça qui fait le buzz aujourd'hui.
Non, mais Cyril, je voulais revenir aussi sur les jets d'urine. Malheureusement, pour avoir discuté avec des filles de la caravane, elles le reçoivent aussi. Donc, c'est pas ciblé sur, bon, cette fois, peut-être, puisqu'il a prononcé son nom. Mais la bêtise, malheureusement, on pourra pas la faire taire.
Le Tour, c'est 12 millions de spectateurs sur les 3 semaines, oui. Grosso modo. Donc il n'y a pas 12 millions de gens respectueux.
C'est vrai, parce qu'il y en a qu'un qui a fait la bêtise, et on parle de lui, quoi. Alors que tous les jours, depuis le départ du Tour de la Hollande, il s'est rien passé, quoi. Alors, il a suffi d'une fois pour que ça fasse le buzz.
Cyril.
La question, on se l'est posée d'ailleurs ici. Est-ce qu'il fallait que Froome en parle? Parce qu'il en parle aux organisateurs du Tour de France, à son équipe. Mais
non,
c'est en faire la publicité.
Il en a parlé à la télé.
Oui, mais non, mais s'il n'en parle pas à la télévision, le problème ne démarre pas. Parce que moi, ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est qu'il y a un phénomène de mimétisme qui peut aggraver les choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir un, t'en as 15.
Tu as parfaitement raison, Cyril, mais c'est exactement ce qui se produit dès lors qu'on les médias parlent de quelque chose, y compris pour des voitures qui se font brûler, que des gens brûlent le soir de la Saint-Sylvestre. Donc il y a un phénomène chez certains, au 14 juillet, voilà, d'entraînement. La question, elle se pose bien au-delà du sport.
Justement, le rôle des médias a été au centre du viseur avec ce débat entre le maillot jaune et les consultants sur les doutes qui ont été émis par les uns et les autres. Votre position en tant que patron du Tour de France?
Non, mais ma position, c'est de dire que tous les coureurs du Tour doivent être respectés. Et c'est ce que j'ai dit. Et donc aussi, bien sûr, le maillot jaune. Et 99,9% des gens au bord de la route respectent le maillot jaune et une majorité d'entre eux les aiment. Après, moi, j'aimerais bien savoir ce que un Bob Beamon battant en 2015 le record du monde du 100 en longueur en le faisant passer du 1m35 à 8m90, ce que ça donnerait s'il était coureur cycliste en 2015.
Pas 2015, Bob Beamon, on est bien d'accord.
Bob Beamon, qui a battu le record du monde du 100 en longueur en 1968 à Mexico, le faisant passer de 8m35 à 8m90. Si un équivalent Bob Beamon avec un exploit pareil était dans le cyclisme aujourd'hui, que ne dirait-on pas?
Luc, Cyril, Thierry, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de choses ressenties. Vous êtes des habitués du Tour de France. Est-ce que vous sentez quelque chose d'inédit dans l'atmosphère, peut-être un peu nauséabonde, c'est ce que révèlent certains, c'est ce qu'expriment certains. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que moi, j'entends depuis quelques jours,
désamour. Je te coupe, Frédéric.
Je suis pas forcément d'accord avec ça.
Non, mais je te coupe encore.
Oui.
Il y a une distorsion totale entre le bord de la route et ce qu'on est en train de dire en ce moment, ce que tu
ici,
dis en ce moment.
Nous.
Et je fais exprès de te tutoyer, puisque même si on t'apprend et on te dit qu'il faut vous voyez les gens, on se tutoie dans la vie, donc on va pas faire semblant. Il y a le même mensonge sur les bords des routes du Tour de France. C'est-à-dire qu'au bord des routes du Tour de France, il y avait un imbécile, j'espère qu'il n'y en aura pas un autre, mais en tout cas, plus on parle de ça, plus dans le cerveau de quelques dingues, il peut se produire quelque chose.
Au-delà de
ça. Faut bien avoir conscience de ça. Non, mais ça, c'est important, parce qu'il y a une vraie responsabilité du journaliste. Et je l'ai été, et tu sais très bien qu'on s'est déjà engueulé, des fois, pour autre chose. Attention à ce qu'on raconte. Ça a une influence, ce que tu dis. Ça a une influence.
Oui, et
comme le reste.
Au-delà de notre propre voix, il y a aujourd'hui les réseaux sociaux qui amplifient ça. Est-ce que le Tour de France n'est pas victime de cela aussi, de la parole
libre? Ça fait un quart d'heure que je suis là et ça fait un quart d'heure qu'on ne parle pas de cyclisme.
Ouais.
À part l'auditeur qui a appelé.
Tout est dit.
Et qui s'inquiétait.
Tout est... tout est dit.
C'est dommage parce que j'étais là de 19h30 à 19h45 et ça fait donc un quart d'heure qu'on n'a pas parlé de cyclisme.
Parlons-en.
Je vais partir, moi. D'autres rendez-vous.
On allait venir à la fin du tour puisque demain c'est la reprise.
Il reste combien? Une minute d'émission?
Il reste surtout 4 étapes de montagne.
C'est très bien, cher Frédéric.
Christian, ce tour a été très très bien dessiné. On vous a tiré le chapeau.
C'est pas la peine de passer la pommade maintenant, tu sais. Hein.
On l'a dit à l'antenne plusieurs fois. Chapeau aux organisateurs du tour de nous donner tant de spectacles. C'est un risque ou pas de mettre 4 étapes de montagne à la veille des Champs-Élysées?
Ça n'a pas été fait depuis 87 et la victoire de Stéphane Roche. C'est pour ça que quand on dit que le tour est fini, il n'est pas fini, même si la position de Chris Froome est forte. Mais au-delà de ces 3 minutes 10 d'avance sur Quintana ou les 3:32 sur Van Garderen, c'est l'impression qu'il a donnée qui nous frappe. Sa domination des 10 premiers jours, parce que la moitié de son avance, elle a quand même été prise en Zélande.
Oui.
Et les 2/3 de l'avance, ça a été pris sur le plat. Alors que la plupart d'entre nous, j'imagine, en tout cas moi, imaginaient plutôt exactement le contraire. C'est un Froome contraint d'attaquer pour refaire son retard. Or, il était devant. Mais on peut certainement pas dire que le tour est fini avec ce qu'il reste à faire en montée et en descente. Avec la canicule qui a existé depuis 2 semaines et demie, avec des différences de température absolument phénoménales. Dès le premier week-end, entre le Utrecht et la Zélande, on est tombé de 35 à 16. Plateau de Baye, on est tombé en 3 heures de 34 à 12. Il va y avoir des surprises. Ces différences de température, la canicule, ça engendre bien souvent des défaillances.
Surtout pour la troisième semaine.
Le tour n'est pas terminé, messieurs. On va en discuter.
On l'a bien vu avec la descente du col de Mans encore hier.
Oui.
Tout est possible. Cette image, heureusement que Garin Thomas n'a rien. Cette image, enfin ce qui s'est passé, donc l'image, c'est absolument fou.
Il y a, je l'ai développé dans l'émission de 18h15, il y a 4 étapes qui sont effectivement très difficiles. On a parlé de surhumaine. Non, c'est les coureurs qui font la course, mais voilà. Il y a une chose qui est évidente, c'est que Froome est en position de leader. Si Quintana est un petit peu mieux que dans les Pyrénées et si Froome est un tout petit peu moins bien, il y aura des possibilités de renverser les choses. Sauf que ça va se produire sur 10 minutes, un quart d'heure, et ce moment-là, il fera que Quintana ne le rate pas.
Tu parles, Cyril, de Quintana. J'ai eu un moment privilégié avec lui hier. J'étais derrière le podium répondant à des interviews. Il vient, il se pose sur son vélo et il est avec son traducteur. Hein. Il ne parle pas français, je ne parle pas espagnol. Et il dit, je lui dis, mais tu sais que les gens t'aiment. Et il dit, oui, mais pourquoi m'aime-t-il? J'ai trouvé que la question était absolument phénoménale. Il trouve que ce petit gars, ce coureur de 25 ans, mais ce petit gars a une approche complètement différente. Et il était incroyablement détendu. J'avais envie de lui dire, mais rentre, va à l'hôtel. Pourquoi tu discutes avec moi? Rentre te reposer.
Super.
Et il était là, comme s'il avait absolument tout son temps, avec une distance vis-à-vis des choses de la course qui était absolument phénoménale.
Oui.
Philosophie autre que
la nôtre. Exactement.
C'est clair.
Oui, il y a clairement deux façons de vivre le cyclisme professionnel, peut-être entre Chris Froome et Nairo Quintana. Merci beaucoup Christian Prudhomme d'être venu à notre micro une nouvelle fois dans l'Intégral Tour.
Bonne soirée
à vous. On reparle de la suite du Tour de France dans quelques instants avec, on le rappelle, 4 étapes de montagne. Demain, c'est direction Praloup pour peut-être un revival de l'étape de 1975 où Bernard Thévenet avait renversé Eddy Merckx le maillot jaune. On vous attend et on attend la Dream Team. Thierry Bourguignon, Cyril Guimard et Luc Leblanc. On pariera également, évidemment, sur cette 17e étape du Tour. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Fred Adam.
L'Intégral Tour en direct de Gap dans les Hautes-Alpes où les 169 rescapés du Tour ont fait une halte de 24 heures pour recharger les batteries parce qu'il reste de la route avant les Champs-Élysées dimanche, mais avant Paris et sa plus belle avenue du monde, il y aura 4 étapes de montagne à commencer dès demain par cette étape redoutée Digne-les-Bains, Praloup, 161 km, un profil en peigne, profil montagne russe, des difficultés en début d'étape, milieu d'étape et puis un final explosif. Le col d'Alos classé en première catégorie et la montée finale vers Praloup. Est-ce qu'il y a de quoi, messieurs, mettre à mal Christopher Froome?
Demain, ça peut. Quintana, c'est une arrivée en altitude, c'est la dernière montée de la journée, le lendemain d'une journée de repos, on peut s'attendre à voir Quintana certainement attaquer le premier jour dans les Alpes, Froome, et de mettre à mal avant, je dirais, les équipiers de Froome, on l'espère en tout cas.
Tiens, on va l'écouter justement, Christopher Froome, que Yann Pécheral est allé rencontrer ce matin à son hôtel, Christopher Froome qui a le maillot jaune solidement accroché aux épaules. mais qui doit tenir encore bon. Écoutez le maillot jaune.
I think certainly from a racing point of view, we're in a
really strong position. D'un point de vue de la course elle-même, on est dans une très très bonne position. On a 3 minutes d'avance au classement général, avec encore 4 étapes à parcourir. On va juste devoir partager un petit peu plus ce travail dans l'équipe, même si les 7 gars avec moi font bien ce boulot. Je pense qu'on est, dans une très bonne position. Les incidents malheureux qu'on a pu connaître ont un peu dégradé les choses. Mais je pense que depuis la mise au point de Christian Prudhomme et celle des autres coureurs, les gens montrent à nouveau leur engouement et il y a un changement d'atmosphère sur les routes. La plupart des personnes présentes dehors sont juste là pour voir la course, encourager les coureurs, et ça fait plaisir à voir. Messieurs, Froome à la trappe comme Thévenet, comme Merckx en 75 face à Thévenet ou pas?
Alors, je ne pense pas que cela puisse se produire demain. Encore qu'il faut toujours se méfier. Hein. Le lendemain des étapes de repos, des fois il y a des carburateurs qui sont un peu encrassés. Mais je pense que s'il doit se passer quelque chose demain sur une étape qui n'est pas simple, mais qui n'est pas la plus compliquée des quatre, sauf la descente d'Alos avant la remontée sur Pralou, cette descente pourrait peut-être avoir plus d'incidents que les ascensions. Il ne faut pas également que l'un des favoris, parce qu'il n'en reste plus que deux, on peut le dire comme ça, Quintana et Froome, aient un petit passage à vide.
Y compris dans la descente. On rappelle qu'on en parlera dans quelques instants avec les paris et Benoît Boutron.
On a vu sur le Dauphiné.
Romain Bardet s'était imposé sur cette même étape sur le Dauphiné, cette étape d'Ine-les-Bains-Pralou qui est à l'image des trois étapes suivantes en direction de Saint-Jean-de-Maurienne, la Toussuire et l'Alpe d'Huez. Étape courte à venir dans les Alpes, mais hyper punchy a priori.
C'est pas la plus dure, hein, c'est pas la plus dure. On l'a vu sur le Dauphiné, l'écart qui s'est fait sur les meilleurs. Entre les meilleurs, c'était dans la descente. Après.
C'est là que Romain Bardet s'en est allé.
Mais voilà, il va avoir une prise de risque, de toute façon, des leaders qui vont essayer de le mettre en difficulté. Après, s'ils le mettent pas demain, je pense que.
Alors, qui est descendeur parmi les favoris?
Il y a Nibali, mais Nibali est déjà bien loin.
T'as Valverde qui. Le problème, c'est que les vrais descendeurs sont très loin au classement. Ils sont à 6 minutes, 7 minutes, 5 minutes. Sur une descente comme ça, vous prenez pas le risque quand vous avez le maillot sur les épaules. En aucun cas, vous allez prendre de risque. Quintana n'est pas non plus le plus grand voltigeur dans la descente, même si je trouve qu'il est. Un Colombien, très bien.
Allez, après la descente, la montée vers Pralou avec l'arrivée en haut, on parie justement cette étape, la 17e étape du Tour entre Digne-les-Bains et Pralou.
Les Paris RMC, Tour de France.
Benoît Boutron est avec nous. Bonsoir Benoît.
Salut Fred, salut messieurs.
Remis de l'étape du Tour, Benoît.
Remis, des courbatures au cervical, c'est étonnant, et dans le bas du dos, mais ça va.
T'étais trop bas.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça, Bourguignon.
C'est un spécialiste qui parle, Thierry Bourguignon. Qui gagnera demain, Benoît?
Un grand favori, Nibali, messieurs. Vous parliez de descendeur, ça peut le favoriser, effectivement. 5,60 pour l'Italien, 7 pour Valverde, Purito Rodriguez côté à 8, Froome à 10. Et après, les cotes s'envolent. On a Pinot à 14, Bardet à 15. Messieurs, j'ai envie de mettre une pièce sur Nibali. Je me dis qu'ils peuvent le laisser s'échapper. Il a bien descendu dimanche sur l'étape, donc pourquoi pas. Plutôt lundi. Moi, je vais jouer Nibali à 5,60.
Sera-t-il au sommet du col d'Alos?
Messieurs, tour de table avec vos pronostics, brièvement. Luc, réfléchir.
Écoute, je vais mettre Valverde.
Valverde, excellent descendeur, quatrième du général. Cyril?
Moi, je suis un peu. J'ai presque envie de mettre Froome, moi.
10 pour la cote de Froome.
Pour remettre un coup d'assommoir et montrer à tout le monde qu'il faut pas bouger une oreille.
Voilà.
Ok. Et
on s'est fait des films pour la première journée de repos.
Oui.
Moi, le lendemain de la journée de repos, je suis d'accord avec Cyril.
Et
je mets Froome parce que c'est eux qui gèrent la super journée de repos.
Sa cote va descendre. Merci beaucoup, Benoît, pour les paris.
Salut.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
L'intégral tour se termine ici à Gap pour la deuxième journée de repos du tour, mais continue dans
ce camion RMC.
Évidemment, avec Virginie Fulpin et Luc Leblanc pour la suite, une demi-heure de questions-réponses.
Et Bourgui également, Bourgui avec moi également jusqu'à 20h30. Hein, on est tous les trois, on va reparler de la Sky, de Chris Froome, des Alpes qui se profilent, des Français de leurs derniers espoirs. Tout ça avec vous au 3216 et sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Puis à partir de 20h30, ce sera l'heure du foot. Jean-Louis Triaud, le président des Girondins de Bordeaux, sera notre invité. Nolan Roux, le nouvel attaquant de l'AS Saint-Etienne. Et puis on parlera aussi du PSG et d'arrivée officielle de Benjamin Stambouli. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.